aujourd'hui à Tam Tam, jusqu'où iriez-vous pour vos enfants? D'emblée, on répondrait jusqu'au bout du monde, plus loin encore. Au cœur de trois premiers besoins de base, se nourrir, se loger, se reproduire, ben nos enfants, du moins pour les parents normalement constitués, sont pour beaucoup nos raisons de vivre. Jusqu'au bout du monde et plus loin encore. Bonjour, ici Raymond Desmarteaux. L'idée est venue, en fait, le thème de cette émission m'est venu samedi dernier, je regardais à la télévision la diffusion d'un reportage d'une tendresse infinie, doublée d'un enjeu sociétal profond. Dans le cadre de la série télé « Mille et une vies » à Radio-Canada, qui est notre diffuseur national, le reportage en question s'intitule « Je veux savoir ». Il a été réalisé par notre collègue journaliste Émilie Dubreuil. Une histoire poignante d'un couple. Un couple qui décide de quitter communauté, rompre carrément avec famille, amis, tradition, tout ce qu'on connaît pour les quatre enfants du couple, pour qu'ils puissent accéder à une éducation séculière. Tenez, voici un extrait. C'est Johanan qui écrit à ses parents.
Chers parents, je sais que mon départ de la communauté a plongé nos familles dans le déshonneur. Je sais que vous êtes tristes, vous avez honte de moi, de nous. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais pris notre départ à la légère. Mais je n'avais pas le choix. Comme père, je devais m'assurer que mes enfants puissent aller dans une école qui leur permettrait d'avoir un jour un métier. Et je voulais surtout qu'ils puissent réaliser leurs rêves.
Réaliser leur rêve. Émilie Dubreuil, bonjour.
Bonjour.
Quand je disais tendresse, et enjeu sociétal aussi. C'est un personnage d'une grande tendresse, ce monsieur que vous avez, qui est au cœur de votre reportage.
Là. Oui, c'est un amoureux, je dirais au sens très large. C'est-à-dire que Johanan, il faut le présenter, vient d'une communauté hassidique, donc juive hassidique. Ce sont des juifs qui pratiquent le judaïsme de façon très, très rigoureuse. Et dans leur communauté, dans leur culture, ils résistent en fait à l'acculturation, à l'assimilation culturelle. Et une façon de résister à l'assimilation culturelle pour préserver leur rapport à la religiosité, c'est de scolariser leurs enfants, notamment les garçons, dans un système d'éducation fermé sur le monde, c'est-à-dire qui forme des enfants qui vont pouvoir réussir au sein même de leur communauté, mais pas à l'extérieur de celle-là. Donc, ils vont étudier les textes sacrés, vont posséder très bien l'araméen, par exemple, qui est la langue de Jésus. L'hébreu classique, mais pas l'hébreu contemporain, et le yiddish. Et donc, ces enfants-là vivent en retrait de la société en général, de la majorité. Et Johanan, qui est ce père-là, qui a mon âge, qui a 40 ans aujourd'hui, a grandi dans ce système-là, qui forme des théologiens, quand même des gens qui sont très, très... qui ont beaucoup étudié, qui ont un esprit critique. Et c'est le paradoxe. Lui, il regardait ça, il avait soif de connaissances. Et s'est dit... Il manque quelque chose dans ce système d'éducation qui évacue complètement les connaissances non religieuses du parcours éducatif. Donc, il s'est dit, il manque quelque chose et il est extrêmement frustré de ça. Et tranquillement, il a entrepris de convaincre sa femme, qui, elle, était chantre dans la communauté, donc écrivait des chansons à la gloire de Dieu, qui étaient des succès mondiaux, parce que faut savoir que ces communautés hassidiques-là, c'est un peu comme des multinationales, c'est-à-dire qu'elles ont un siège social quelque part dans le monde, le plus souvent à New York ou à Jérusalem. Et après ça, elles ont des succursales un peu partout. Et donc, elle était très, très fervente. Et ça a pris des années avant qu'il la convainque et qu'elle aussi se rende compte qu'il y avait une sorte de lavage de cerveau, d'une certaine façon, et à quel point les enfants souffraient de ne pas avoir accès à des connaissances et à quel point, finalement, on brimait leur liberté de choisir à in fino parce que ils n'ont pas les connaissances quand ils graduent de ces écoles-là, ils n'ont pas les connaissances s'ils veulent sortir de là pour exercer un métier. C'est même pas un choix religieux à la limite, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, si quelqu'un rêve d'être psychiatre, par exemple, c'est impossible.
C'est ça. J'ai demandé à deux collègues de participer à cette émission, Leonardo Rimeno, qui est notre webmaster, qui travaille en trois langues, lui en espagnol, en anglais et en français, et qui est parti d'Argentine avec famille et tout, puis il me disait aussi en sous-titre pour mes enfants. Léo, bonjour.
Bonjour, ça a été la même chose. Bonjour tout le monde. Ça a été la même chose. On a laissé tout de l'autre côté. Quand on a quitté, on a pensé, en fait, la famille, la culture, et tous nos sentiments, ils ont resté de l'autre côté. Je pense que l'immigration, c'est comme ça. Dans le cas de ces gens-là, je pense qu'ils ont réimmigré à l'intérieur de la société canadienne. Mm. Alors, parce qu'ils étaient dedans, mais finalement, ils ont dû sortir...
Dedans, mais à l'extérieur.
Mais d'ailleurs, mon titre de travail longtemps pour ce documentaire-là, c'était « Immigrer de l'intérieur », parce que la femme du couple, qui s'appelle Chifra, donc ils viennent à 30 km de Boisbriand, qui est situé à 30 km de Montréal, elle s'est inscrite dans un centre pour immigrants dans Côte-des-Neiges, avec des gens qui venaient de partout dans le monde pour apprendre le français. Et ce sont littéralement des immigrants. Et je dirais même que c'est presque plus difficile, plus ardu que des gens qui immigrent, par exemple, du Pakistan ou de l'Argentine, parce qu'il n'y a pas de réseau.
Ouais.
Alors, quelqu'un qui arrive du Pakistan, il va avoir l'ami d'un cousin de l'oncle de la fesse droite. Il va avoir des gens pour l'aider.
Alors que ces gens-ci subissent aussi un ostracisme, un shunning, disons en anglais aussi, complet. Ils
connaissent personne, n'ont pas de repère.
J'ai aussi demandé à mon collègue Levant, qui est de la section anglaise, mais Levant, qui est notre polyglotte ici, parce que...
Non.
Oui, mais quand même, français, c'est quoi? C'est sixième, il y a l'arménien, qui est la langue d'origine, le russe, il a étudié l'arabe, il a étudié l'allemand à l'université, puis il a publié en anglais ici, puis il travaille en anglais, puis il peut faire de la radio en français. Si ça, c'est pas un polyglotte, j'en connais pas. Vous, c'est aussi un départ. Vous m'avez dit, Levan, l'URSS d'à l'époque, quand moi je suis parti à Chute du mur de Berlin, c'était beaucoup moins... une chape de plomb que vous pensiez que c'était, vous, en Occident, mais il a fallu que je parte.
Mais oui, moi, j'ai eu des raisons personnelles et travail. J'ai commencé à travailler comme journaliste à la fin de... près de l'effondrement de l'Union soviétique.
89-92, dans ces eaux-là, c'est
oui,
ça?
Oui, 90. Mm-hmm. Et ma carrière journalistique n'a pas duré très long avant que j'ai commencé à recevoir des menaces. Et ma femme était enceinte à ce moment et c'est devenu tellement sérieux que après avoir des gens qui ont tiré sur nous, on a décidé qu'il fallait...
Bon, ça suffit, aller, on part.
Ouais. On part. Mm-hmm. C'est un choix. On savait que c'est pour un enfant, ça serait mieux. En fait, moi, j'ai rêvé de retourner. J'ai laissé un travail incroyablement intéressant. Les premières années d'indépendance d'Arménie, c'était incroyable.
Et tu vois Yerevan à l'époque?
Oui, mm-hmm. oui. Mais moi, j'ai voyagé un peu partout dans l'ex-Union soviétique. J'ai commencé ma carrière en couvrant la guerre de Haut-Karabakh, même si la guerre civile en Géorgie.
C'est ça, oui.
La guerre en Ossétie. J'ai fait la guerre civile en Tadjikistan. Alors, j'ai réussi de voyager un peu. Mais ici, je parlais français quand je suis venu ici, mais pas d'anglais. je ne sais pas comment j'ai réussi, mais mon anglais a commencé de zéro. J'ai réussi de développer tellement vite que à 88, j'ai commencé à travailler en anglais.
À la Gazette, notamment, oui, c'est ça. Mais, et le thème... pour Yohanan et son épouse, Chifra, et pour les quatre enfants, pour vos enfants, c'est le thème, là. C'est ce départ, ce déracinement pour la prochaine génération. Ça veut dire quoi pour soi, ça, Léo?
Mais écoute, nous, on parle toujours avec ma conjointe la possibilité de revenir un jour en Argentine.
En Argentine, OK.
Mais si on les pense comme ça, on dit non. Non, on va revenir quand les enfants ils vont avoir ses propres chemins. Et parce que là, maintenant, si on s'en va, si on retourne en Argentine, les racines, ça va être leurs racines.
Ils sont ici, c'est ça.
C'est ça. Mes enfants sont nés ici. Ses amis sont ici. Sa vie est ici. Ils parlent français entre eux. Ils parlent anglais à l'extérieur quand ils jouent avec ses amis. On essaie de maintenir l'espagnol à la maison parce que, bon, c'est un atout, avoir une troisième langue, puis en plus l'espagnol. Mais quand même, je pense que ça serait vraiment un impact très fort si on s'en va maintenant avec nos enfants. On ne partirait pas maintenant.
Émilie, dans le reportage, à un moment donné, vous êtes allée à Boisbriand avec Yohanan et il y a eu une confrontation avec un religieux qui disait à un moment donné, par tel exemple, est-ce que tu es malheureux ici? Toi, est-ce que tu es malheureux? Bon, ben, c'est sûr, pointant comme ça, tous les jeunes ont dit non, on est très bien, on est très heureux dans ce qu'on fait. Voyons, on a un système d'éducation qui existe depuis 5000 ans. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Faites-le, que le vôtre fasse ses preuves, on changera ensuite. Cela dit, en Israël, on vous a dit aussi, si rien ne change, dans 50 ans, l'État est en faillite.
Oui, c'est ça. Alors, je vous expliquais que les communautés hassidiques, c'est un peu comme des multinationales. Mmh. Évidemment, le plus grand nombre de ces groupes hassidiques, parce qu'il y en a plusieurs, c'est pas un truc monolithique, il y a plusieurs groupes avec leurs propres écoles différentes. Nous, on voit pas trop la distinction, mais quand on connaît un peu plus, oui, il y a. Mais ce qui les rassemble, c'est vraiment cette manière d'éduquer particulièrement les garçons. Et donc, de façon très simple, si quelqu'un va dans une école où il apprend exhaustivement les textes sacrés, ça ne fait pas de lui quelqu'un de très rentable pour le produit intérieur brut. C'est-à-dire que ça ne va pas donner des gens.
C'est dit de façon cinglante, quand même.
C'est ce que les économistes en Israël ont calculé. C'est-à-dire que ces hommes-là qui sont formés à l'étude religieuse ne deviennent pas des professionnels ou très peu deviennent des gens d'affaires, donc ne paient pas beaucoup de taxes ni d'impôts et même doivent recevoir des subsides de l'État pour pouvoir y arriver parce qu'ils ont plusieurs enfants.
On est allé dans l'État de New York aussi, oui, à un moment donné, une ville très pauvre.
Comme ils sont extrêmement religieux, ils font énormément d'enfants. Et donc, leur taux de croissance démographique est très, très, très impressionnant. En ce moment, ils ont 10 % de la population en Israël, mais en ce moment, un enfant sur cinq de moins de 6 ans appartient à ces groupes religieux.
Mais c'est 20 % là.
Ça, là, on est donc rendu à 20 % et on calcule qu'ils vont, donc, que ça augmente de façon exponentielle. Et donc, d'ici 2030-2040, on calcule que Israël ne sera plus en mesure d'arriver. Alors, il y a une urgence nationale de mettre ces gens-là au travail et donc de compenser leur déficit d'éducation pratico-pratique à l'école parce que c'est un problème rationnel, c'est un calcul rationnel qu'on fait.
T'sais, voici un exemple typique du reportage de cette fracture de connaissances. Écoutez bien ça.
What is this?
What do you mean this?
The water. It's a lake?
No, it's not a lake. It's not a lake. It's the St. Lawrence River.
St. Lawrence River. What is St. Lawrence River?
The river? Do you know what a river is?
I'm not sure.
No?
No. I don't know the difference between a lake and a river.
Where did you grow up, Yohanan?
In Boisbriand.
And you never came here? You never saw the river?
Nope, never.
Ça vous jette par terre, le vent de vous.
Quand je regardais ça, je m'en revenais pas. C'est comment tu peux... C'est incroyable, je restais sans mots. C'est incroyable.
On peut avoir des images des chutes Niagara quand on est quelque part au Nagorno-Karabakh, oui, soit. Mais à 50 km du fleuve Saint-Laurent, pas le connaître, c'est...
Écoute, mais connaître pas la différence entre un fleuve et un lac. En fait, il y a comme des...
Il y a un manque profond, c'est ça.
Il n'y a pas de cours de géographie. Ouais.
C'est pas juste les cours de géographie, c'est même des connaissances quotidiennes qu'on apprend juste en sortant de notre maison. C'est comme, ils sont tellement en enfermés dans leur communauté que même des connaissances pratiques, tu n'as pas besoin de cours de géographie pour comprendre c'est quoi une rivière ou un lac.
Mais parce que vous le savez, vous. Mais non, c'est vrai, quand on a tourné cette scène-là qui fait vraiment...
Qui choque
beaucoup, beaucoup de gens. Donc, le personnage arrive, le fleuve Saint-Laurent, c'est quand même iconique au Québec. Tout le monde sait c'est quoi le fleuve Saint-Laurent. Mais ce qu'on voit pas, et malheureusement, il a fallu que je fasse des choix au montage, c'est qu'on a passé la journée dans l'auto. Et on est allé voir plein de trucs. Le Mont-Royal, par exemple, qui est quand même incontournable quand on
est à Montréal, c'est ça.
Aucune idée, le Mont-Royal. Michael Jackson. J'ai mis un CD de Michael Jackson dans l'auto. Jamais entendu Thriller. C'est un gars de mon âge. Le Michael Jackson, ça a marqué la génération, la planète au complet. Je suis sûre qu'on ferait écouter ça à quelqu'un dans un bidonville en Inde, saurait c'est qui Michael Jackson. Mais ça prouve à quel point ça fonctionne, cette sorte de forteresse intellectuelle qui s'explique par l'histoire des Juifs fascistiques. Donc, il y a une explication cohérente, c'est-à-dire qu'à partir de la Révolution française, on a donné aux Juifs les mêmes droits qu'aux autres Européens en Europe. C'est le siècle des Lumières, éventuellement, et on se dit, ça n'a aucun sens de garder les Juifs dans des ghettos et de les priver de la liberté, eux aussi, d'aller étudier, d'aller travailler dans la majorité. Et donc, évidemment, les gens vont fuir les ghettos dans lesquels on les a enfermés pendant des centaines d'années. On les a persécutés, on les a privés de droits. Ils étaient dans la pauvreté totale. Mais certaines personnes se sont quand même attachées à leur petite planète. Et se sont dit, on est bien entre nous. Et on veut pas s'intégrer.
Et votre personnage et son épouse ont décidé de casser le moule et de faire ça pour les enfants.
Ouais.
Est-ce que vous sentez des points de convergence, les deux collègues, d'être partis avec lui? Levan.
J'ai regardé sa tendresse pour ses enfants, pour sa femme. C'est sûr qu'il a réalisé qu'il doit faire des sacrifices. Parce que j'imagine que c'est des sacrifices incroyables. Nous, on a laissé nos familles à l'extérieur, mais au moins, on était en contact. Je n'imagine pas une situation où ta famille rompt tous les contacts avec toi parce que tu...
Parce que tu quittes la religion.
C'est très dur, ça. C'est très dur parce que, évidemment, ils n'aiment pas du tout, en plus, qu'on attire l'attention vers eux, ces groupes-là. Ils ne sont pas du tout heureux de cette publicité-là. Et donc, ils sont très conscients de ce qu'ils leur font subir. C'est-à-dire qu'il y a une poursuite. Yohanan et Shifra poursuivre le gouvernement du Québec en disant, pas pour avoir des sous, il n'y a pas d'argent en jeu, pour dire est-ce que cette situation-là des écoles exclusivement religieuses au Québec, sur notre territoire, est légale? Si elle ne l'est pas, il y a plusieurs lois qui tendent à dire que ça ne l'est pas. La loi sur l'instruction publique, la charte de la langue française, la charte des droits et libertés, la charte des droits de l'enfant, tendent tous à dire que ce n'est pas légal. Alors, c'est devant les tribunaux en ce moment. Et si le magistrat dit que ce n'est pas légal,
qu'est-ce qu'on fait?
Il va pointer ensuite et dire qu'il y a des gens qui sont imputables de cette situation-là.
Voilà,
alors, Yohanan et Shifra, donc, non seulement ont attiré l'attention vers ces communautés-là qui veulent rester recluses, mais en plus ont amené la situation devant les tribunaux. La rupture, mais ils sont très attachés, ils s'ennuient, ils sont en exil culturellement.
Où est l'harmonie en vous aujourd'hui?
Elle est toujours là. Je commence chaque journée en lisant les journaux. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec Internet. J'écoute la radio arménienne chaque matin à 7 heures. C'est quelque chose qui... Mais l'harmonie a changé. Maintenant, quand je reviens, les gens disent immédiatement, « Ah, tu viens d'étranger, tu as un accent. » Maintenant, je parle toutes les langues avec un accent.
C'est bon, ça. Léo aussi, hein, on se fait dire la même chose.
En fait, écoute, mon accent, je ne veux jamais le perdre. Puis quand j'y vais en Argentine, c'est toujours la même chose. En fait, on essaie de garder, quand on sort de nos pays, on essaie de garder l'image, on a l'image de l'endroit qu'on a laissé. Mm-hmm. Quand on revient, la vie a continué, hein. On revient puis on attend les mêmes choses qu'on avait 15, 20 ans en arrière, mais ça marche pas comme ça.
Et on embrasse tous les soirs nos enfants. Je veux savoir, d'Émilie Dubreuil a été présentée le samedi 14 mai dernier dans le cadre de l'émission Mille et une vies à la télé de Radio-Canada. L'hyperlien pour voir ou revoir ce reportage est dans le texte qui accompagne ce tam-tam aujourd'hui. Émilie Dubreuil, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Léo Jimeno. Merci beaucoup, Léo Jimeno. Propose également, on parle de musique ici au Canada, musique tous azimuts, flûte des Andes aussi, de tribus musicales du monde, nouvelle production, Aqua ou Akawi, dis-je bien. 100 000 livres, un projet à donner, livre du trésor du futur, la passion de Frédéric Fortin, et aussi d'abord la pérennité rassembleuse du patrimoine religieux à Montréal. Vous savez, quand on évoque le patrimoine religieux, on pense tout de suite à l'oratoire Saint-Joseph, on pense à la basilique Notre-Dame, qui elle est dans le Vieux-Montréal, mais il y a beaucoup d'autres lieux à découvrir. C'est ce que propose Siam Jama dans son livre « Montréal, un patrimoine religieux à découvrir » qui vient de paraître chez Ulysse. C'est avec la collaboration du Patrimoine religieux du Québec et Tourisme Montréal. Bien, cette semaine, Marie Jobin s'est entretenue avec Siam Jama, auteur et spécialiste en tourisme religieux et spirituel. Voici quelques moments de cette conversation.
C'est depuis mon jeune âge que, effectivement, j'étais intéressée par l'histoire des religions et de la spiritualité au sens général. Et les lieux de culte sont fascinants parce que c'est là où les gens se rassemblent justement pour pratiquer leur religion, pour partager leurs croyances, etc. Donc, c'est des lieux qui sont riches en histoire et même sur le phénomène social de certaines régions et territoires. Donc, c'est très intéressant. Depuis quelques années, on constate qu'il y a vraiment un engouement autour du tourisme religieux et spirituel. Et Montréal ne fait pas exception à cette tendance. En fait, tout le Québec, dans le fond, nous avons quatre grands sanctuaires. Nous avons l'oratoire Saint-Joseph, bien évidemment, qui est un grand lieu de pèlerinage. Nous avons Sainte-Anne-de-Beaupré, donc à Québec. Il y a l'ermitage Saint-Antoine de la Bouchette, qui est dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Notre-Dame-du-Cap, justement, qui sont en fait hauts lieux de pèlerinage, que ce soit des croyants, des non-croyants, des gens qui vont vraiment pour la pratique religieuse, d'autres qui les visitent parce que ce sont des lieux patrimoniaux importants. C'est sûr que les gens qui viennent de l'extérieur, ils vont plus vers les lieux qui sont les plus, on va dire, les grands classiques qui sont dans les secteurs touristiques. Donc, si on parle de Montréal, ils vont plus aller dans le vieux Montréal en priorité. Ils vont plus aller à l'oratoire Saint-Joseph. D'ailleurs, l'oratoire Saint-Joseph et la basilique Notre-Dame font partie des lieux touristiques les plus visités. Justement, il y a un chiffre que l'Office de tourisme Montréal a sorti récemment. Ils disent en fait que parmi les touristes qui visitent Montréal, 14% à peu près d'entre eux identifient le patrimoine religieux comme vraiment un aspect très important de leur séjour. Pour les gens de Montréal, il y a aussi toute la notion d'église de proximité en fait et de quartier. Donc c'est ce qui rend en fait ce guide très intéressant, c'est que même les Montréalais peuvent aller faire des découvertes, même moi pendant ma recherche, et pourtant je rentre dans pas mal d'églises, pendant ma recherche j'ai vraiment découvert des petits trésors, des petits joyaux que je n'avais jamais eu l'occasion d'aller visiter parce que c'était pas proche à côté de chez moi.
Thank you.
sûr, par exemple, quand on regarde le Vieux Montréal, c'est un peu le circuit, on va dire, des bâtisseurs de la chrétienté, parce que c'est là que la ville s'était construite au départ, et donc c'est là qu'on retrouve les lieux de culte les plus anciens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre à travers ce guide même le développement et le déploiement des quartiers dans la ville. Donc les quartiers qui sont développés plus tard, ben là on va retrouver des églises plus modernes. D'ailleurs, ça a été un de mes coups de cœur, les églises modernes que je ne connaissais pas forcément, puis que là j'ai pris la peine d'aller visiter, et surtout de comprendre les démarches des architectes modernes, donc des années 60. Et il y avait aussi la notion que la décoration devait être réduite à un minimum, donc on était moins dans l'exubérance et l'ostentatoire. Donc ces architectes-là, ils ont dû composer avec ces nouvelles conditions, qui là les a peut-être poussés dans une créativité à aller avec des formes qui sont plus audacieuses. Donc on va voir des formes, des toitures paraboliques, on va voir par exemple comme Notre-Dame d'Anjou qui est quasiment en semi-finale, l'église. Ils ont introduit aussi des matériaux contemporains, bien évidemment. Là on était moins dans la pierre, on était plus dans du béton. Et puis ils ont beaucoup apporté dans le traitement de la lumière. Donc en fait, pour séparer les espaces dans les lieux de culte, ils ont beaucoup travaillé la lumière pour créer des ambiances, pour configurer en fait l'espace, etc. Donc quand on comprend la démarche derrière, c'est super intéressant. C'est assez bien décrit d'aller vers comprendre un peu la réflexion des architectes derrière ça, leurs contraintes et comment ils sont venus avec ces églises-là. Et comment ces églises-là, à l'époque, étaient construites, l'aspect social du quartier, etc. Parce qu'il y a aussi des flux migratoires. En place, en fait, il y a un contexte de la construction de ces lieux. En plus, on parle des lieux en tant que tels. Donc, c'est aussi un voyage à travers les époques et l'histoire, on va dire.
Montréal, un patrimoine religieux à découvrir, c'est publié chez Ulysse, collection Art de vivre. Siam Jama est aussi auteur du guide sur les chemins spirituels et religieux du Québec, aussi chez Ulysse. C'était une proposition de Marie Jobin. Et on reste dans le monde du livre, mais du don de livre cette fois. Frédéric Fortin est un ex-décrocheur. De retour à l'éducation, aux adultes, il est passé par des classes d'alphabétisation. C'est vous dire à quel point ses études au départ, ça n'avait pas servi à grand-chose. Donc, il a terminé ses études secondaires, il a reçu une attestation d'études collégiales en gestion de commerce. Note globale, 93%. Puis, il s'est lancé dans une idée folle. Les Trésors du futur, une librairie de livres d'occasion. Et c'est plus que raccroché qu'il a fait. De fil en aiguille, de chapitre en chapitre, oui. Les Trésors du futur, ça a pris de l'expansion. Aujourd'hui, il est à Belœil, sa première antenne, et aussi à Saint-Hyacinthe. Et là, le nouveau projet, complètement fou, là, et ce qu'il veut faire, c'est donner 100 000 livres. Donner. Un projet qui s'adresse aux écoles, aux centres de formation pour adultes, aux maisons d'accueil pour femmes victimes de violences, aux centres de désintox, aux prisons, aux centres jeunesse et plus encore. Frédéric Fortin.
À la base, c'est sûr que moi, j'ai la librairie de Belœil depuis 2010. Puis le premier don que j'ai fait, moi, parce que dans mon commerce, moi, j'achète et j'échange des livres en tout temps. J'ai tout le temps des livres là, que j'achète, et peut-être trop. Certaines personnes aussi m'en donnent. Fait qu'à un moment donné, j'ai accumulé ça, puis je faisais des ventes pour amasser des fonds. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire un don dans l'école aux adultes à Saint-Bruno. Moi, j'ai un parcours, justement, là, vous avez raconté, de décrocheur. Puis moi, les livres, ça a vraiment transformé ma vie. T'sais, j'ai tout le temps cru que ça serait bon d'en mettre partout puis de faire découvrir. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais pas la lecture. Mais dans le fond, c'est pas que j'aimais pas la lecture, c'est que j'avais pas trouvé ma passion, j'avais pas trouvé ce qui me donnait le goût de lire. Fait que en découvrant ça, vraiment transformé ma vie. Fait que à partir de là, vu que mon expérience a sorti que d'autres vivent la même expérience puis trouver leur passion. De là est née là, l'idée un peu de donner les livres. Fait qu'après une grosse vente, j'avais fait un gros don à l'école secondaire, centre de formation du Richelieu, qui était à Saint-Bruno. Puis eux, il n'y avait aucune bibliothèque, parce qu'au centre de formation aux adultes, ils n'ont pas vraiment de budget pour les bibliothèques. Fait que moi, je trouvais que ça n'avait pas d'allure, une école pas de livres. Fait que j'avais fait un gros don, une centaine de caisses de livres. Puis eux ont bâti une bibliothèque avec ça. À partir de là, j'ai fait comme, waouh, ça c'est intéressant, puis tout ça. Puis là, entre-temps, j'ai continué à en accumuler d'autres, puis je voulais faire ça chez moi. J'ai eu des petits problèmes là, pour m'installer chez moi, puis pouvoir partir mon projet. Ça a été long, j'ai accumulé pendant longtemps. Là, j'étais rentré avec des entrepôts, des cubes d'entreposage. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai décidé d'ouvrir une autre succursale à Saint-Hyacinthe, parce que j'avais assez de livres pour partir mon autre succursale. Mais j'avais aussi tellement de livres que j'accumulais pour ce projet-là. Et là, j'ai pris un autre local à côté. Celui-là, il va être vraiment pour créer mon projet, qui est le projet Don de livres pour les écoles. À partir de là, les écoles, les prisons, les centres, les personnes qui en ont besoin pour pouvoir venir chercher des livres, sélectionner ce qu'ils veulent, puis partir des projets, essayer de parler de l'importance de la lecture, de faire découvrir. C'est pas une lecture imposée, c'est vraiment que les gens puissent découvrir plein de sujets variés, puis découvrir leur champ d'intérêt. Le but, c'était ça, en même temps, de donner dans les écoles pour aider à augmenter leur bibliothèque scolaire, mais aussi pour partir des projets, des bibliothèques dans les classes, mettre les salles étudiantes avec un petit café ou quelque chose pour donner le goût à la lecture. Dans le fond, c'est ça le projet, c'est vraiment de donner une seconde vie aux livres aussi, là, parce qu'il y a des livres, pas parce que c'est des livres usagés qui datent de quelques années. Des fois, ils sont assez récents, pas parce qu'ils sont plus vieux, qu'ils sont plus bons. Le but, c'est vraiment de les faire vivre. On a des projets là, qui sont en branle. Puis oui, le but, c'est ça, c'est d'aider. Ça peut être des maisons de thérapie aussi. Des fois, les gens sont en stress, ils savent pas, ils ont beaucoup de temps, ils savent pas trop ce qu'ils sont dans leur vie. T'sais. Des fois, c'est des bons moments pour justement prendre un livre, puis changer d'idée, apprendre des nouvelles choses. Fait que oui, c'est des organismes comme ça. Moi, le but de ce projet-là, c'est pas de me débarrasser d'une quantité de livres, c'est vraiment de leur donner une deuxième vie, puis de les rendre utiles, que ça serve à des gens, que ça l'aide des gens. T'sais. Des organismes, des fois, comme ça, qui n'ont pas de moyens pour aller s'acheter des bibliothèques. C'est vraiment le temps là de s'approvisionner, puis de partir des projets, puis de donner le goût. Ça, c'est vraiment la mission. Moi, le but, c'est pas de donner des livres pour que d'autres se mettent à faire des ventes de livres pour ramasser des fonds. C'est vraiment de donner le coup à la lecture. Le but du projet, c'est vraiment ça. Les gens, un coup, qui voient que c'est pour être donné, il y a certaines écoles qui sont venues, entre autres, l'école Casavant à Saint-Hyacinthe, qui est l'école où ce que moi j'ai étudié, qui est une des premières aussi après le centre de formation du Richelieu à être appelée pour faire les dons. Le directeur de l'école est extrêmement content parce qu'il on a tellement des petits budgets, étant donné qu'on est obligé d'acheter neuf, ça fait pas beaucoup de livres. Fait qu'avec la quantité de livres que je leur ai envoyés, ils étaient très contents. Moi, comme je dis, c'est pas un projet qui est pour débarrasser, c'est un projet long terme. Fait que les gens viennent une fois, mais dans quelques mois, ils vont pouvoir revenir aussi, puis faire de la sélection, reprendre d'autres nouveaux livres, faire avancer. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis il y a eu beaucoup d'autres dons qui ont été faits. Là, pour l'instant, je vais me concentrer juste de parler de l'important de trouver des gens qui vont venir s'approvisionner. Puis je pense qu'on va pouvoir, par la suite, se rencontrer peut-être, discuter des dons qui vont avoir été faits parce qu'il y a vraiment de quoi de beau qui s'en vient avec ça. Là. Mais le but pour l'instant, c'est vraiment de dire aux gens, on a des livres, inscrivez-vous, venez faire une demande, puis proposez-nous votre projet, puis nous, on va vous inviter après ça à venir sélectionner vos livres, vous en préparer aux besoins. Pour le moment, c'est vraiment ça, là, d'aller chercher des gens qui ont besoin de livres.
Frédéric Fortin de la librairie Les Trésors du Futur, c'est à Belle-Oeil et à Saint-Hyacinthe, au Québec.
Vous écoutez Radio-Canada International.
Radio-Canada International.
Uno, dos, tres, cuatro.
Esta es Radio-Canada International.
Après de nombreuses années d'un parcours vraiment en méandre, ouais, combat d'arts martiaux mixtes, activisme, entrepreneuriat, dis-je bien, oui, l'auteur-compositeur Akawi lance Intertribal. En fait, c'est un multi-instrumentiste, il est compositeur, il a choisi de suivre des racines, les siennes, dans la musique autochtone, avec une nouvelle vie, des rythmes andins, et j'en parle, on fusionne tout ça. Paloma Martinez est allée à la rencontre de cette nouvelle production d'Akawi.
Le nom de cette épée, c'est Intertribal. Donc, c'est la combinaison de toutes ces tribus,
ça? Exact. C'est, en fait, l'intertribal, ça vient de les chansons autochtones ici. Les chansons intertribales, c'est quand tu vas dans un powwow et tout le monde de n'importe quelle nation, que tu sois martien, que tu sois africain, chinois, asiatique, n'importe qui peut aller danser à leur manière. Donc, c'est des chansons intertribales. Donc, l'idée m'est venue de là parce qu'il y a beaucoup de métissage de rythmes tribales. Il y a beaucoup d'électronique. Il y a des flûtes autochtones des Andes, le chant autochtone d'ici, le tambour. Il y a de la batterie, il y a de la bass. Il y a des, donc, tout ce métissage. Et la pochette de mon EP, c'est vraiment comme un univers galactique. Donc, c'est tout ce monde imaginaire que je mets en musique après. Tu iras, l'heure a sonné, une nouvelle ère est arrivée. Oye mi pana, échale gana, réveille-toi. Ça parle d'une identification à tes sources, à tes origines, à ne pas te laisser trop conditionner dans le milieu où tu vis. Même si tu fais partie de la société, chacun possède une essence propre. Et des fois, on perd son essence parce qu'on vit dans un milieu urbain ou parce qu'on vit dans n'importe quel quartier. Donc, toutes ces fusions qui ont fait jusqu'à date qui je suis, il fallait que je mette ça dans les textes. Et aussi dans la musique.
Est-ce que vous croyez que d'autres personnes peuvent s'identifier à cette combinaison d'identité dont vous parliez?
Ça, c'est la grande question. Oui, tout à fait. On vit dans une ère maintenant qui est due à des changements. Il y a un grand éveil, peut-être, social, un éveil de prise de conscience. Et beaucoup de jeunes, j'ai mis sur YouTube le vidéoclip, et beaucoup de jeunes ont trouvé ça fabuleux. Parce qu'on dirait parce que ça leur parle, tu sais. Du fait que ta musique a une essence tribale, autochtone. C'est la racine de l'Amérique, en fait. On peut pas dire... Parce qu'ici, c'est un territoire autochtone. Toutes les Amériques, c'est un territoire autochtone. It was unceded. Ça a été pris, ça n'a jamais été donné. Je pense que chacun dans son âme, dans son cœur, on va sentir ce son vient interpelle quelque chose en moi. Que tu sois celtique, que tu sois africain, que tu sois autochtone de n'importe où. Et le texte, la plupart du monde, we're grinding, on se bat pour quelque chose de mieux. C'est pas pour rien que les meilleurs artistes, quand ils disent des textes qui sortent du cœur, ben les jeunes, les personnes sont réceptives à ça. Donc, je crois que oui, tout à fait.
Intertribal, le tout nouveau disque de Akawi. Et c'est avec ce reportage de Paloma Martinez que se termine notre tam-tam aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Chantal Saint-Sauveur, Allergie Technique. Ici Raymond Desmarteaux. Au revoir. À bientôt.